Voilà, bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver, malgré l'heure tardive. Vous êtes courageux, vous êtes
Bonsoir.
courageux, vous êtes bien courageux. Mais pour faire de la théologie, on peut bien se lever tôt ou veiller tard, voilà. Donc nous allons continuer notre parcours sur les sacrements. Vous vous rappelez, nous avions travailler ensemble et parcourir ensemble l'évolution de rite de l'initiation. Ce soir, nous allons terminer les trois sacrements de l'initiation, donc l'exposé des trois sacrements d'initiation à partir des rituels. Donc nous venons à notre pratique actuelle avec toutes les questions pastorales que ces pratiques peuvent poser. Et puis nous allons commencer déjà un peu l'Eucharistie dans son évolution, notamment dans les textes de Paul et du Nouveau Testament, donc du Nouveau Testament généralement. Puis nous continuerons la prochaine fois l'Eucharistie, nous la terminerons aussi en principe, mais disons, vous voyez bien que les cours se tuilent. Donc je vais partager l'écran pour que vous voyez ce que je vais. Voilà. Voilà, vous vous rappelez de ce tableau. Donc le tableau, essayez de mettre en évidence, et c'est de là que je partirai pour arriver à nos rituels actuels, mettez en évidence que l'initiation a connu peu à peu une reconnaissance dans une unité de trois gestes fondamentaux, un geste d'eau, un geste d'huile, un geste de pain et de vin. Donc trois gestes signifiant l'adhésion au Christ lui-même par le baptême et l'onction qui était très proche, et puis l'Eucharistie qui disait l'incorporation dans la communauté des croyants. Et puis nous avons vu comment peu à peu dans l'histoire ces trois sacrements, notamment en Occident, j'insiste beaucoup, cette évolution, on la connaît surtout en Occident. Elle n'est pas connue par les traditions orientales, orthodoxes, et les protestants ont évolué autrement après la réforme par rapport à la perception de ces sacrements. On pourra en parler si vous voulez. Mais pour nous, dans l'Occident latin, nous assistons peu à peu à ce que j'appelle deux phénomènes. L'un, c'est l'éloignement, la désolidarisation des sacrements entre eux, le baptême, la confirmation, l'Eucharistie. Ils s'éloignent l'un de l'autre peu à peu et vont être établis ou reçus dans des moments de la vie précis. Le tableau indique que généralement le baptême, je dis bien généralement, le baptême à la naissance, la confirmation vers 7-10 ans et la première communion vers 10 et 14 ans. Donc, désolidarisation dans l'âge de la vie du baptisé, mais aussi ce que j'appelle de manière très gentille, ne le prenez pas comme un jugement trop raide, un désordre de l'ordre principal et originaire, c'est-à-dire que, par exemple, nous voyons qu'à un certain moment, la communion peut passe avant la confirmation, pas seulement à un certain moment entre 1910 et 1970, mais aussi aujourd'hui, la pastorale parfois propose la première communion avant la confirmation. Et nous avons dit très rapidement, mais on pourra en reparler si vous voulez, que du point de vue théologique, cela peut nuire à la perception qu'on a de cette unité des sacrements et du sens qu'ils ont dans cette pratique d'initiation, c'est-à-dire du fait d'aller vers, de vivre et de découvrir et de vivre la vie chrétienne et la sequela Christi, la suite du Christ dans la vie de tout court. Et donc, le Concile Vatican II, notamment à partir des années 60-70, essaye de retrouver cette unité et cet ordre, et donc va proposer deux rituels de l'initiation, un pour les adultes et un pour les enfants. Ça, c'est pour ce qui concerne le baptême, Mais sachez qu'il y a un autre troisième sacrement qui est la confirmation, qui fait partie des sacrements de l'initiation. Donc on a là trois moments fondamentaux pour célébrer et dire l'initiation. Et donc, l'Église catholique, notre propre Église, l'Église catholique romaine, déjà au moment du Concile et même un peu avant le Concile, se trouve en face de situations pastorales assez importantes auxquelles elle essaye de répondre. Et il y a deux situations que je vais vous décrire pour comprendre pourquoi nous avons ces trois rituels. La première question est une augmentation, mais cela déjà à partir des années 40-50, vous voyez, même parfois, je dirais 20-30 pour certains milieux, donc 1920, 1930, 40-50 en particulier. On assiste en Europe, notamment en France, à une augmentation des conversions d'adultes. Je donne quelques exemples, mais c'est seulement des exemples, mais on a fait des enquêtes sur ça, donc on sait combien de personnes se convertissaient, mais je vous donne des grands noms de ces conversions. Pensez à Paul Claudel. Paul Claudel, par exemple, se convertit au christianisme adulte, et donc il se fait baptiser adulte. Pensez au milieu des Maritains, Jacques et Raïssa Maritain. Jacques Maritain, le grand philosophe, Raïssa, sa femme, était aussi philosophe. Eh bien, autour d'eux, eux-mêmes se convertissent au catholicisme, au christianisme et au baptême. Et puis, ils créent tout un réseau d'amis, d'artistes. Ils connaissent Cocteau, ils connaissent d'autres grands artistes de l'époque, et on voit l'émergence d'une conversion de milieu intellectuel et donc d'adultes. Et surtout, l'Église de France se découvre comme un pays de mission. Il y a un livre fameux écrit par un théologien qui s'appelle France, pays de mission, dans les années 40-50, qui dit bien qu'est-ce qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire, il y a le désir de la part de groupes, de personnes individuelles, de groupes, de devenir chrétien. Donc, le problème se pose, qu'est-ce qu'on fait quand des adultes demandent le baptême? Il existait un rituel. Le rituel avait une partie pour les adultes. Mais je vous fais remarquer que la célébration du baptême des adultes, comme aussi celui des bébés, comportait des contradictions avant le Concile. Première contradiction, c'est celle que on célébrait tous les rites du catéchuménat, tous les rites que nous avons lus dans l'évolution historique et qui sont structurés au IVe siècle, on les célébrait dans une seule séance liturgique. Et donc tout était concentré dans une seule séance. Cela advenait et pour le baptême des adultes et pour le baptême des enfants. Mais chose qui était encore plus, qui connaissait une certaine difficulté, c'est qu'on baptisait les enfants comme s'ils étaient des adultes. Alors, par exemple, le rituel du baptême d'avant le Concile était une condensation des rites qu'on avait connus au cours de l'histoire, tels que nous les avons vus, mais adressés à l'enfant. Alors, je dis toujours, j'ai eu la chance, je ne sais pas si c'était une chance, c'est plutôt une blague ce que je vais vous raconter, mais j'étais baptisé avant le Concile, moi. Et donc, naturellement, j'imagine, parce qu'on ne me l'a jamais raconté, mais j'imagine que j'ai reçu les trois exorcismes en un coup, en 2 secondes, l'un après l'autre, exorcisme qui était étalé dans l'Antiquité, dans une période bien plus large. Ou encore, voilà, d'autres exemples de ce type-là montrent bien que le rituel pour le baptême des petits-enfants était un rituel destiné à des adultes et qu'on avait concentré ces rites dans un seul moment. S'ajoute un troisième contexte historique, celui des pays de mission. Les pays de mission, là aussi, désormais, les missionnaires écrivent à Rome dans les années 50, disant, nous baptisons de plus en plus d'adultes. Mais nous constatons que le rituel qui est en usage n'est pas conforme à ce qu'on pourrait faire pour des adultes. Les adultes ont besoin de suivre un parcours, de suivre une initiation qui est plus étalée dans le temps et dans l'espace. Ils sont capables de comprendre, donc ils ont besoin d'une catéchèse. Vous voyez, donc il y avait tout ce problème-là. Et donc, ces demandes faites à Rome, à l'époque, on l'appelait la congrégation des rites, fait que déjà un peu avant le concile, comment on peut dire ça, on détend la ritualité du baptême et donc on met des étapes dans le rituel qui était avant le concile. Cela permet par la suite, quand le concile, à cause de ces conversions, demande dans la Constitution sur la liturgie qu'on rétablisse l'institution du catéchuménat, parce que justement le catéchuménat était destiné à des adultes, eh bien cette demande-là provoque le fait qu'on est obligé de penser à un rituel pour des adultes. Donc, d'où la rédaction du rituel d'initiation chrétienne des adultes à la suite du Concile Vatican II. Disons, le travail commence déjà pendant le Concile et il se termine, comme le voyez bien, la date 1972, le 6 janvier 1972, et promulguer le rituel de l'initiation chrétienne des adultes en langue latine. Les autres dates sont les dates 96-97, c'est à peu près la même date. Ce sont les dates de l'adaptation du rituel en français, donc qu'on a traduit et adapté du latin en français. Vous vous demanderez comment ça se fait qu'il passe autant de temps. Et qu'est-ce qu'on a fait entre 72 et 77 et 97? Naturellement, on a continué à baptiser des adultes avec un rituel temporaire, à l'intérim, comme on dit, c'est-à-dire provisoire, mais qui a bien fonctionné, qui a permis de baptiser des adultes à cette époque. Mais surtout parce que le travail, et là je le dirai une fois pour toutes, parce qu'on peut le dire après pour tous les rituels, comment ça se passe le travail de rédaction d'un rituel à cette époque, au moment du concile? Généralement, le concile demande qu'on fasse quelque chose, c'est dans la Constitution sur la liturgie. On crée une commission, un organisme censé faire avancer les demandes de réforme. Et donc, on crée des groupes qui travaillent, qui au missel, qui au rituel du baptême, qui au rituel de la réconciliation, qui à la liturgie des heures. Vous voyez, chaque groupe d'experts du monde entier, du monde tout entier, qu'ils soient biblistes, philosophes, liturgistes, vous voyez, compose ces groupes selon leur spécialité. Et ils se mettent au travail pour rédiger des rituels. Et le rituel se forme peu à peu, vous voyez, entre le début du Concile 62, la Constitution sur la liturgie 63, donc entre 63 et 72, par exemple, et un groupe a été chargé de travailler ce rituel, par l'envoi des copies de la rédaction au pape. Le pape dit cela va bien, cela va pas bien, renvoie la copie, il faut refaire. Ce rituel-là, en plus, a été envoyé à tous les catéchuménats d'Europe. Donc, les catéchuménats doivent répondre si cela convient ou non à ce qu'ils connaissent de la pratique du baptême des adultes, ainsi de suite. Donc, vous voyez, 72 déjà dit tout le travail de rédaction et de passage. Et puis, une fois que l'édité est en latin, la langue originale de l'Église catholique, on envoie ce rituel en latin aux conférences épiscopales du monde entier, française, espagnole, italienne, toutes les langues possibles. Et donc, ces conférences sont censées d'adapter ce rituel latin, de traduire et d'adapter ce rituel en français. Et donc, là à nouveau, travail d'un groupe francophone qui adapte, propose, traduit, renvoie à Rome. Rome dit non, ça c'est pas tout à fait exact. Donc cela il dure jusqu'en 96 et donc jusqu'à époque de la promulgation finale. Pour tous les rituels, vous retrouverez ces dates. Hein. Donc, pour les petits-enfants, c'est 69, la première édition en latin, puis 84 en français, pour la confirmation 71 en latin, puis 76 en français, avec une deuxième édition à toujours à, du même rituel. Donc, je disais, rituel de l'initiation chrétienne des adultes. Donc, voilà, on se met au travail pour ça. Mais on a des adultes qui demandent le baptême, il y a l'émergence de l'importance du catéchuménat, mais pourtant, la majorité de personnes qui sont baptisées sont des bébés à l'époque. Encore aujourd'hui, je vous fais remarquer, c'est encore les bébés qui sont majoritaires dans le baptême, pas les adultes, malgré une augmentation du baptême des adultes. Et alors, on se dit, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a un gros débat dans l'Église à cette époque du point de vue théologique. A-t-il un sens de baptiser des enfants, des bébés? Certains théologiens disent, oh non, c'est pas bien, ils n'ont pas la capacité de répondre. D'autres répondent, oui, ça a toujours existé, nous en avons parlé un peu la dernière fois. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On dit, c'est une réalité, on ne peut pas l'effacer en tant que telle, il y a des coutumes, et donc on garde le baptême des petits-enfants. Mais, et le mais est extrêmement important, on dit, si on baptise les enfants, on rédigera un rituel qui est destiné aux petits-enfants. Voyez? Donc le rituel est pensé, a été rédigé, a été pensé comme étant un rituel qui est destiné aux petits-enfants. Ça n'avait jamais existé dans l'histoire de l'Église en Occident. Comme je vous disais, on a toujours baptisé avec un rituel pour des adultes, des enfants. Là, par contre, en 69, apparaît pour la première fois dans l'histoire un rituel destiné aux enfants. Je vous montrerai en quel sens il est destiné aux enfants. Disons que la ritualité et la théologie est pensée pour un baptême de petits-enfants. Et puis, naturellement, il y avait la situation, et il y a encore aujourd'hui la situation, de ceux qui sont baptisés bébés et qui doivent continuer leur initiation, notamment par la confirmation, du moment où désormais, la confirmation, quand on est baptisé bébé, on ne la reçoit pas au moment du baptême. Et donc, du coup, les personnes qui, ayant été baptisées bébés, doivent encore recevoir la confirmation. On connaisse désormais un rituel de la célébration de la confirmation. Ce qui fait que, comme je vous disais rapidement la dernière fois en concluant, nous avons trois rituels de l'initiation chrétienne, j'ai bien dit chrétienne, pour les adultes, pour les enfants et généralement pour les adolescents, mais même pour les adultes qui reçoivent la confirmation. Donc, je vous disais aussi, la France connaît un quatrième rituel de l'initiation, c'est le rituel du baptême pour les enfants en âge scolaire, qui n'est rien d'autre que un extrait d'un chapitre du baptême, du rituel de l'initiation chrétienne des adultes. Donc, il fait plutôt partie de l'orbite de ce rituel. Et donc, j'essaye maintenant, nous essayons de voir quelle est la particularité de ce rituel. Et surtout, je voudrais vous montrer comment, même si on baptise, surtout quand on baptise adulte, il n'y a pas de problème du point de vue théologique et pastoral. Par contre, le problème théologique se pose quand on baptise, excusez-moi, des petits-enfants. Et on peut se demander, mais d'abord, la question qui était déjà celle de l'Église ancienne, peut-on baptiser des petits-enfants qui ne peuvent pas répondre de leur foi? Première question, mais la théologie a résolu, a essayé essaye de donner une réponse à ça. Mais surtout, la question est autre, est celle de dire qu'est-ce qu'on fait de leur initiation? Parce qu'on ne leur donne pas ni, on leur donne ni la confirmation, ni l'Eucharistie. Donc, comment peut-on voir l'unité des sacrements dans un baptême, dans un rituel comme celui du baptême des petits-enfants? Et c'est pareil pour la confirmation. Celui qui reçoit la confirmation a été baptisé bébé, mais comment on peut voir l'unité des sacrements d'initiation alors que la confirmation est donnée de manière ponctuelle, parfois sans avoir la perception de cette unité. Je vais vous montrer comment les rédacteurs de ce rituel ont pensé théologiquement, je dis bien théologiquement, mais on pourrait le retrouver du point de vue pastoral, l'unité des sacrements, même quand on est baptisé bébé et même quand on est confirmé adolescent, par exemple. Je commencerai donc du baptême, du rituel de l'initiation chrétienne des adultes. Pourquoi je commence par ce rituel? Parce que la théologie catholique retient que ce rituel représente de manière accomplie le modèle pour comprendre le baptême. Vous voyez? C'est le modèle théologique pour comprendre le baptême. Pourquoi? Vous le comprenez facilement, parce que le rituel est destiné à des adultes qui peuvent répondre de leur foi. Et donc, la vie sacramentelle est de l'ordre d'une relation, d'une adhésion à la foi qui nous est offerte par la parole, par l'annonce de la parole et la célébration des sacrements. Eh bien là, ce rituel est tout à fait illustre très bien cette importance de la dynamique sacramentelle, alors que le baptême des petits-enfants est moins évident pour comprendre cette relation entre la personne qui reçoit le sacrement et qui adhère par lui-même, et il faut toujours un intermédiaire pour comprendre cela. Donc je commence par le rituel d'initiation chrétienne des adultes, et la première nouveauté que l'on retrouve, mis à part le fait que il s'inspire, c'est pour cela que nous avons fait la première partie du cours, il s'inspire des pratiques de l'Église ancienne. Donc quand il faut rédiger ce rituel, les rédacteurs disent, mais on n'a jamais plus fait ça depuis 1500 ans. Donc où on va trouver un modèle? Ils vont chercher du côté de la tradition apostolique, du côté des Gérines, du côté de Cyrille de Jérusalem, du côté de ces pratiques de l'Église ancienne qui avaient structuré l'initiation de manière assez cohérente et dynamique. Et donc, première nouveauté, celle qui s'inspire d'une tradition de l'Église, d'une tradition vénérable de l'Église. Et deuxième nouveauté, c'est qu'on nous trouve là-dedans le mot initiation. Aucun autre rituel a le mot initiation. Un mot qui n'est pas un mot propre à la théologie sacramentaire, mais qui est plutôt propre d'une anthropologie rituelle. Le mot initiation, un mot très ancien, on en a parlé peut-être tout au début du cours, mais il remonte à l'antiquité la plus ancienne, l'antiquité grecque, hein, donc ce sont les pratiques très chrétiennes même, hein, et les chrétiens l'assument comme mot pour dire effectivement que on est initié progressivement à la vie chrétienne, que cela ne se fait pas d'un coup, et même que le baptême ne fait qu'inaugurer cette vie chrétienne. Voyez? Donc c'est de l'ordre d'une initiation, d'un apprentissage de la vie chrétienne. Et donc le mot apparaît pour différentes raisons culturelles, théologiques. On reconnaît dans ce mot un mot qui fonctionne bien pour dire ce que l'on fait avec des adultes qui doivent recevoir le baptême. Et donc, nous avons pour ce rituel, et nous allons le lire ensemble, des notes doctrinales et pastorales. Cela me permet de vous faire remarquer que, à partir du Concile Vatican II, tous les rituels sont dotés de notes doctrinales et pastorales. Nous les aurons aussi pour les autres. Là, je vous ai mis les notes doctrinales et pastorales. Et là, vous trouvez une sorte d'exception. Je vous ai mis le mot latin, prenotanda. C'est le mot qu'on a donné dans le rituel latin. Et j'aime bien partir de ce mot latin pour vous faire comprendre, et naturellement l'expression note doctrinale et pastorale, c'est la traduction, l'adaptation du groupe français, groupe francophone, à partir de Prépère. Pourquoi on traduit les notes doctrinales et pastorales à partir du mot prenotanda? D'abord, je partirai du mot prenotanda. Prenotanda, c'est un mot latin qui a deux mots, notanda, à noter, à remarquer, à faire attention, prêt, avant. Et donc, vous voyez bien que ces notes, les Français traduisent les notes doctrinales et pastorales. On retrouve le mot note dans le notanda, vous voyez. Mais la traduction française dit le contenu de ces prenotanda ou de ces notes. Elles ont un caractère doctrinal et pastoral. Quand je dis doctrinal, c'est que nous le verrons tout de suite. Et nous permettent de saisir la théologie du sacrement qui est célébré. Et d'autre part, pastorale, parce qu'elles essaient de répondre à des questions pastorales. Par exemple, comment on va le célébrer, quand on va célébrer ce sacrement, qui va le célébrer, à qui est adressé, et ainsi de suite. Ça y est? Et donc, ces notes doctrinales pastorales sont très importantes. Nous allons les lire ensemble. Elles existent pour tous les rituels. Je reviendrai par la suite pour les autres rituels. Mais je commence à voir les notes doctrinales et pastorales tirées du rituel de l'initiation chrétienne des adultes. Donc là, j'ai photocopié, scanné ce rituel. Les notes, je vous l'avais montré peut-être. Donc, et celui-ci est le rituel. Oui, le rituel se présente de cette manière-là. C'est l'édition de 96, celui-ci. Et donc, à l'intérieur, il y a ces notes doctrinales et pastorales. Ces notes-là, c'est-à-dire les notes 1-35, vous voyez, sont des notes qui valent et pour le baptême des adultes et pour le baptême des enfants. Donc, ce que nous allons commenter ensemble ont une valeur aussi pour le baptême des enfants. On peut comprendre le sens du baptême des enfants à partir de ces notes, et même de la confirmation, à partir de ces notes qu'on appelle générales. Après, chaque rituel a des notes particulières pour le rituel lui-même qui doit être employé. Et donc, on commence par cette phrase. Oui, vous avez remarqué, je vous initie aussi à la lecture de ces textes de rituels. Les rituels et les notes ont un numéro 1, 2, voyez, 3, 4, 5, 6. Donc parfois, je dirais note 1, 2, 3, vous savez comment vous repérez. Et donc, il commence par la note 1, qui est une sorte d'introduction, une quasi-affirmation théologique. Par les sacrements de l'initiation chrétienne, les hommes délivrés de la puissance des ténèbres, morts avec le Christ, ensevelis avec lui et ressuscités avec lui, reçoivent l'esprit d'adoption des fils et célèbrent avec tout le peuple de Dieu le mémorial de la mort et de la résurrection du Seigneur. Vous voyez bien là, cette phrase du début nous montre que les sacrements d'initiation, mais seulement, pas seulement les sacrements d'initiation, mais aussi les autres, nous le verrons, s'enracinent dans le mémorial de la mort et de la résurrection du Seigneur. Donc, dans ces sacrements, on fait le mémorial de la mort et de la résurrection du Seigneur. Et nous le faisons à travers la célébration des sacrements. À nouveau, on dit les sacrements de l'initiation. Et puis, on voit bien, telle une prédication du Nouveau Testament, on est délivré de la puissance des ténèbres et on reçoit l'esprit d'adoption. C'était bien la prédication de Pierre le jour de la Pentecôte, et puis il y a la dimension ecclésiale, il célèbre avec tout le peuple de Dieu. Donc il y a l'idée du peuple de Dieu réuni qui célèbre le mémorial. Et puis donc, il va décliner ces sacrements de l'initiation chrétienne. Et là, nous avons des toutes petites définitions, si je peux dire, des sacrements. Alors on dit par exemple, par le baptême, ils deviennent un seul corps dans le Christ pour former le peuple de Dieu. Ils reçoivent le pardon de leurs péchés. C'est le propre à nouveau de la prédication, de la toute première prédication chrétienne. Le baptême est vécu pour la rémission des péchés. Et on est d'eau et de l'esprit. Là, nous avons la théologie johannique. On est dans une création nouvelle et on est appelé fils de Dieu. Par la confirmation, on est marqué par le don de l'Esprit, on est configuré davantage, on dit bien plus pleinement configuré. Cela veut dire que le baptême nous donne déjà l'Esprit, mais la confirmation nous configure pleinement au Seigneur et on est capable de rendre témoignage devant tous. Et enfin, l'assemblée eucharistique, dans l'assemblée eucharistique ou par l'assemblée eucharistique, on mange la chair, on boit le sang du Fils de l'homme pour avoir en eux la vie éternelle, manifester l'unité du peuple de Dieu, s'offrent eux-mêmes avec le Christ, ainsi de suite. Pour terminer avec cette phrase extraordinaire, hein, c'est ainsi que les trois sacrements de l'initiation chrétienne conduisent ensemble à leur pleine stature les fidèles qui exercent dans l'Église et dans le monde la mission de tout le peuple chrétien. Nous y reviendrons sur cette idée du fait que le baptême habilite à la mission le baptisé. La mission et l'évangélisation n'est pas réservée au ministre ordonné, mais c'est par le baptême que l'Église vit pleinement sa mission. Et donc, effectivement, le baptême appelle à le baptiser à faire partie, à devenir un missionnaire et un annonciateur de l'Évangile. Le texte, par la suite, va nous donner un condensé, je dirais, de la théologie baptismale, avec quatre affirmations qui sont marquées en gras. Ils sont le sacrement de la foi, ils font entrer dans l'Église universelle, ils font naître à la vie de Dieu, et ils font participer à la mort et à la résurrection du Christ. J'en dirai quelques mots rapidement. Tout d'abord, ils sont le sacrement de la foi. Alors naturellement, quand nous disons le sacrement de la foi, nous pensons toujours à la foi de manière telle que peut-être, hein, je ne dis pas tout le monde, j'espère, nous l'avons apprise quand nous étions enfants ou quand nous avions catéchisme. Nous pensons toujours au contenu de la foi. Mais là, quand on dit quel est le sacrement de la foi, il veut dire que par le baptême, la confirmation, l'Eucharistie, on adhère à quelqu'un, on se met en relation avec quelqu'un. L'initiative de Dieu est toujours première. La nôtre suit celle de Dieu. Et donc, effectivement, la grâce précède toujours le désir de communier avec Dieu. Eh bien là, la foi n'est que la réponse à cette grâce donnée. Et quand on dit que c'est le sacrement de la foi, pas seulement on a dans le baptême notamment la condensation du mystère de la foi, nous sommes baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, mais surtout nous rentrons dans la vie divine. Et donc, ils sont le sacrement de la foi parce qu'ils nous ouvrent à cette relation avec Dieu lui-même, par le Fils et l'Esprit. Et donc, ils nous habilitent à être en relation avec Dieu lui-même. Et puis, puisqu'ils nous mettent en relation avec Dieu, ils nous font entrer dans l'Église universelle. Et là, je voudrais faire remarquer, on n'a pas marqué entrer dans l'Église catholique. On a la traduction du mot catholique qui est universelle. Et donc là, ça veut vraiment dire que l'Église est partout. Et on pourrait dire catholique, mais on a bien fait à dire universel dans la mesure où on écarte toute ambiguïté par rapport à la confession de l'Église catholique. Mais là, on est au sens d'une Église qui habite le monde entier, pas seulement ça, mais Église qui s'adresse au monde entier. L'Évangile du Christ, s'il y a une force de l'Évangile du Christ, c'est qu'il peut être adressé au monde entier, à l'humanité tout entière. C'est en ce sens-là qu'on a une entrée dans l'Église universelle, première remarque. Deuxième remarque, c'est que la foi chrétienne, s'il y a quelque chose qui caractérise la foi chrétienne, c'est qu'elle ne peut pas être une foi individuelle. Elle est toujours une foi communautaire. Dès le début, le Christ réunit autour de lui un groupe. Un groupe est envoyé à annoncer l'Évangile et l'Église est vraiment ce corps du Christ qui se manifeste tout au long de l'histoire. Donc l'entrée dans l'Église universelle, c'est bien ça. Quand je suis baptisé, quand je suis confirmé, quand je célèbre l'Eucharistie, même maintenant que nous sommes déjà baptisés, eh bien, je manifeste cette Église universelle. Et puis, il y a ce sacrement offre, donne, nous font naître à la vie de Dieu lui-même. J'aime bien rappeler la plus ancienne théologie chrétienne que nous ayons à ce niveau-là. Je pense au grand théologien qui s'appelle Irénée de Lyon. Et Irénée de Lyon aimait bien dire, je le fais dans une sorte de raccourci, de condensé, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Vous entendez bien dans cette phrase, c'est Irénée qui l'a dit, hein. Donc, naître à la vie de Dieu, ça veut pas dire, bien sûr que nous naissons au moment du baptême à la vie de Dieu, mais nous sommes appelés à devenir de plus en plus, à naître de plus en plus dans cette vie, et donc de devenir de plus en plus des dieux, au sens que Irénée le pense, et donc d'être à l'image du Fils de Dieu lui-même, du Christ lui-même. Les pères aimaient bien dire, vous êtes devenus d'autres Christ. Par le baptême, vous êtes devenus d'autres Christ. Hein? Et le mot chrétien dit bien le Christ lui-même, le mot du Christ lui-même. Voilà. Et puis donc, participation à la mort et à la résurrection du Christ, nous l'avons déjà prouvé tout au début du texte numéro 1, hein, donc le mémorial de la résurrection, là, nous avons trouvé, donc on est appelé à célébrer le mémorial de la résurrection, et donc effectivement le baptême, la confirmation, l'Eucharistie, les sacrements d'initiation nous font participer à la mort et à la résurrection du Christ. Pas comme un mime, c'est pas une sorte d'imitation, voilà, dans laquelle je répéterai une pièce de théâtre, mais au sens que cette vie-là, cette expérience même du Christ, passe en moi, se réalise en moi. C'est autre chose que de mimer ou d'imiter quelque chose. Et là, effectivement, cette importance de du mystère pascal est soulignée, du coup, par une première annonce des notes de pastorales qui suivent, là où le rituel dit, c'est pourquoi la joie de la résurrection doit se manifester quand on célèbre le baptême, surtout à la veillée pascale ou le dimanche. Nous verrons que tous les rituels, que ce soit le rituel d'initiation chrétienne des adultes, le rituel du baptême des petits-enfants, le rituel de la confirmation, demandent que ces sacrements-là soit célébré pour les adultes, la veillée pascale, la vigile pascale, pour les bébés, le dimanche, et pour la confirmation aussi, le dimanche. Donc, du coup, pourquoi le dimanche? Parce que c'est le dimanche, le premier jour de la semaine, que le Christ est ressuscité. Et donc, on ancre, on fonde la célébration de ces sacrements dans l'expérience même de la résurrection du Christ. Et c'est pour cette raison qu'on demande que cela soit célébré. Première partie, à proprement parler, nous dirions doctrinale. Vous l'avez remarqué. Donc, il y a une théologie fondamentale du baptême, là, qui est très importante. Il suffirait qu'on comprenne bien ça pour comprendre la théologie du baptême, hein, et des sacrements de l'initiation chrétienne, je vous fais remarquer. On passe, là, on bascule dans les dimensions plutôt pastorales, à la fois théologiques et pastorales, je dirais. Là, nous sommes encore un peu dans la théologie, mais ouvrant à une dimension plutôt pastorale. Là, quand on traite des fonctions et des ministères. Et c'est là que quelque chose de surprenant advient dans ce rituel. Vous pouvez reverser ce qu'on va dire dans le dossier que vous avez ouvert avec Anna Righini sur l'ecclésiologie. Eh bien, vous remarquez bien que là, ce que j'appellerais la révolution copernicienne de l'Église catholique est faite. Qu'est-ce que j'appelle la révolution copernicienne? Quand on parle des fonctions et des ministères pour la célébration des sacrements d'initiation, on ne commence pas par les évêques, on ne commence pas par les prêtres, hein, on ne commence pas par les diacres, c'est-à-dire par les ministres ordonnés, mais on commence par le peuple de Dieu. Donc, Le texte est assez important là et le montre très bien. Là où le numéro 7 dit, c'est au peuple de Dieu, c'est-à-dire à l'Église qui transmet et nourrit la foi reçue des apôtres, que revient en premier lieu le soin de préparer le baptême, au baptême et de former les chrétiens. Donc, la tâche, la charge d'initier, de transmettre la foi, revient en premier lieu aux baptisés, au peuple de Dieu, dit le texte. Et donc, vous voyez là, c'est même extraordinaire, le texte développe, même presque il détaille toutes les possibles présences de ce peuple de Dieu, là où on dit qu'il faut qu'il y ait les catéchistes, les laïcs, qu'ils collaborent avec les prêtres et les diacres. Puis on dit que pendant la célébration du baptême, le peuple de Dieu, représenté par les parrains, les parents, les proches, mais aussi les amis, les familiers, les voisins, quelques membres au moins de l'église locale, puissent être présents à la célébration. Vous voyez, on a vraiment le visage tout entier. Et puis on dit, ainsi se manifestera la foi de la communauté, s'exprimera la joie commune avec laquelle les nouveaux baptisés sont reçus dans l'église. Et puis on parle naturellement des parrains et des marraines, ceux qui accompagnent et témoignent de l'avancement de la foi, là des adultes, mais, ou bien qui accompagnent la foi d'un enfant, d'un petit enfant. Et puis donc des ministres, et là, effectivement, on détaille l'évêque, les pasteurs, les autres prêtres, les diacres. Il y a cette note 16 qui peut être intéressante pour nous. Là où on dit, donc je suis page 15, hein, là où on dit, en l'absence d'un prêtre ou d'un diacre, s'il y a péril de mort, et surtout si la mort paraît imminente, tout fidèle et même toute personne animée de l'intention requise pour un tel acte a le pouvoir et parfois le devoir de conférer le baptême. Dans le cas où il y a vraiment un péril de mort, le sacrement sera conféré autant que possible par un baptisé selon le rite bref que l'on trouvera ci-après. Et puis donc, voilà, il y a là, après cette numéro 17 qui continue dans le même ton, tous les laïcs membres du peuple sacerdotal, mais surtout les parents, en raison de leur fonction, les catéchistes, les sages-femmes, les assistantes familiales, les assistantes sociales, les infirmières, les médecins, les chirurgiens auront à cœur de connaître, selon leur capacité, la manière correcte de baptiser en cas de nécessité. Donc, il y a là, vous voyez, j'aime bien ces numéros parce qu'ils ouvrent à une ministérialité diffuse. La ministérialité n'est pas réservée aux ministres ordonnés, mais peut être partagée et peut être diffuse à d'autres personnes. Une fois vu les notes doctrinales de l'ensemble de l'initiation, je vais rentrer maintenant dans la description de leur célébration. Voilà. Et là, vous avez donc, je vous ai mis pour chaque rituel ce que j'appelle, ce qu'on peut appeler l'ordre rituel. Pour tout rite, pour toute célébration, il y a un ordre. Il y a un déroulement, pour le dire autrement. Et donc, chaque rituel a ses particularités. Et la particularité du baptême des adultes est unique. On ne le trouve pas ailleurs dans d'autres rituels, d'autres sacrements. Mais en vérité, je pense que peu à peu, on arrive à comprendre que le rituel d'initiation chrétienne des adultes devient modèle pour les autres sacrements aussi, on pourra en parler par la suite. Quelle est la caractéristique de ce rituel? Ah oui, je dis toujours avec un peu d'humour, Rica, c'est pas une marque de café décaféiné, mais c'est rituel de l'initiation chrétienne des adultes. Voilà. Donc c'est une abréviation qu'on a habituellement. Voilà. Et donc, je vous ai mis cela en trois colonnes. La première colonne à gauche dit le processus, c'est-à-dire comment processus, au sens qu'il va, il procède, il avance. C'est un rituel, un rituel qui fait avancer dans un processus. Il y a un ordo. Ordo en latin veut dire déroulement des rites. Et effectivement, dans cette colonne, vous trouvez surtout les rites qui sont faits au moment où on est appelé à une célébration. Et puis là, je vous ai mis les appellations que l'on donne à ceux qui vont recevoir le baptême ou qui sont catéchumènes. Je vous dirai comment, on le montrera vers la fin. Mais première remarque à faire, vous voyez bien que le processus décrit par le rituel d'initiation chrétienne des adultes, un processus qui alterne, il y a une alternance d'étapes, il y en a trois, un, deux et trois, et de temps, il y en a quatre, un, deux, trois et quatre. Donc, vous voyez bien, il y a une sorte de oui, de tissage de périodes, de moments ponctuels. On fait ça un jour, ce sont les étapes, mais après, on étale cela dans le temps. Il y a des temps plus longs qui ne sont pas un jour, un seul jour. Alors, je commencerai par les étapes qui marquent rituellement le processus. Il y a d'autres rites aussi dans les temps, mais commençons par les étapes. Et vous faire remarquer que toutes les étapes, la première, la deuxième, la troisième, sont toujours célébrées à l'Église en présence de la communauté ecclésiale et comportent des rites. Voilà. Et donc, vous voyez bien, pour la première étape, généralement, l'entrain catéchuménal peut advenir à n'importe quel moment dans l'année. Par contre, la deuxième étape sera et tous célébrer le premier dimanche du carême, hein, le premier dimanche du carême. Et puis la troisième étape, naturellement, la célébration des sacrements est célébrée la nuit pascale, la vigile pascale. Donc là, ce sont les moments précis. Et par contre, les étapes, les temps plutôt, entre les étapes, on peut constater qu'il y a un temps de la première évangélisation, c'est-à-dire un temps dans lequel on ne propose encore rien à celui qui demande parfois à devenir chrétien, mais on l'accueille tout simplement. Le rituel dit même que il faut qu'il y ait un accueil sans rite particulier. C'est intéressant ce que dit le rituel. Pourquoi? Parce que le rite engage. Et donc, si je commence à dire à la personne qui dit, ah, je voudrais bien devenir chrétien, dit, ah, on commence à faire le signe de la croix, cela n'est pas bon. Il faut lui dire, commençons à parler ensemble, prenons un café, allons manger ensemble. Ça, c'est plus important l'amitié, là, que non, des rites à faire. Alors que, vous voyez que les rites d'apprentissage de la vie chrétienne commencent avec la première étape de l'entrée en catéchuménat. Et entre cette étape et la deuxième étape, il y a un temps qui peut être relativement long, au moins un an. Ça dépend des lieux d'église, ça dépend justement des lieux d'église ou des diocèses, mais généralement c'est entre un an et 2 ans, voire 3 ans parfois. Mais disons qu'actuellement, bon, moi, généralement les catéchumènes en ont un peu marre d'être trop catéchumènes. Donc, il demande assez vite d'être baptisé, mais voyez bien que ce temps, il faut le faire vivre. Il est très important, malgré parfois la demande d'être baptisé tout de suite. Hein. Et puis, le temps de la purification, de l'illumination de ces rites, comme on l'appelle, effectivement, correspond au temps du carême. Si on a la deuxième étape, le premier dimanche de carême, le temps qui suit est celui du carême, 40 jours, c'est précis. Et le temps de la ce qu'on appelle le temps de la mystagogie, nous avons parlé du mot mystagogie, mystère, entrer dans le mystère. Mais le temps de la mystagogie n'est rien d'autre que le temps pascal qui suit le temps du carême et dans lequel le rituel demande que les néophytes aillent à la messe de la communauté paroissiale, là où ils vivent, où ils vivront, pour apprendre pour être intégré dans la communauté chrétienne. Alors vous voyez bien que ce rituel a cette particularité d'alterner ces moments précis et des moments plus longs, et surtout, il a la particularité d'initier à des adultes peu à peu la vie chrétienne. Il y a toujours, vous le remarquerez dans les célébrations, la relation entre parole de Dieu et gestes rituels. Je pense, par exemple, je prends l'exemple de la première étape. Vous voyez, on le fait à l'extérieur de l'église, à la porte de l'église, on a un dialogue initial, on signe le front et les sens des catéchumènes, on entre dans l'église, on a la liturgie de la parole, on remet l'évangile, le livre des évangiles, on prie pour la catéchumène et on renvoie les catéchumènes, ainsi de suite. Voilà. Donc, du coup, vous voyez que chaque étape est marquée rituellement de manière très importante, mais aussi parfois les temps qui comportent des célébrations de la parole, les premiers exorcismes, les rites de l'onction, ou bien le rite des, ce qu'on appelle les rites des scrutins, qui ne sont pas des élections politiques, mais le mot scrutin vient du mot du psaume, hein? Seigneur, tu me scrutes, me connais, tu connais mon cœur, tu connais mon âme. Donc, les scrutins veut dire se mettre en présence de Dieu et se laisser voir par Dieu, regarder par Dieu, lié aux évangiles à partir du troisième dimanche de carême, troisième, quatrième et cinquième, là où ces dimanches sont caractérisés par les évangiles de la Samaritaine, de l'aveugle-né, de Lazare. Ça remonte à la pratique la plus ancienne de l'Église de Rome. Et donc, pendant que cette initiation avance par ces étapes, ces temps, qu'on peut dire, les candidats au baptême se transforment. L'initiation qui transforme, qui fait grandir. Hein? Et donc, du coup, vous voyez que le rituel appelle ces candidats pendant le temps de la première évangélisation sympathisants. Quand ils rentrent en catéchuménat, on les appelle catéchumènes. Je vous ferai remarquer que catéchumène veut dire faire résonner dans les oreilles. C'est la catéchèse qui résonne dans les oreilles de ceux qui deviennent catéchumènes. Et puis, à la deuxième étape, là où on choisit les catéchumènes pour qu'ils soient baptisés, là où les catéchumènes demandent à être baptisés, mais on a un discernement et l'évêque tranche sur ce discernement. Eh bien, on les appelle élus, ceux qui doivent être illuminés, illuminandi, et ceux qui vont rentrer dans l'Église, ceux qui poussent, frappent à la porte pour entrer dans l'Église. Élus, naturellement, ne pensez pas, pensez-le au sens qu'ils ont été choisis. Et donc, ils ont été choisis et ils sont choisis par Dieu. Donc, voilà, il y a cette double perception. Et puis, ceux qui doivent être illuminés, vous vous rappelez Justin qui disait, quand on reçoit ce bain, on l'appelle illumination, parce qu'il illumine tout l'être hein, chrétien. Voilà, dans l'idée de lumière. Et puis, néophyte, phutos en grec, racine, nouvelle racine, nouveau bourgeon, hein, je veux dire un peu ça. Donc, il faut les protéger, les nouveaux bourgeons, d'où la période de la mystagogie. Peut-être, je vous propose de nous arrêter là pour le moment, puis je vais continuer avec le baptême des petits-enfants et le baptême de la confirmation. Mais je voudrais bien, si, comme on a pris l'habitude, si vous en avez le désir, que vous réagissiez, que vous me sollicitiez si quelque chose n'était pas clair, ou bien vous voulez remarquer l'un ou l'autre aspect que je n'ai pas pu traiter.
J'ai une question.
Oui.
Oui. Par rapport à l'entrée dans l'Église universelle, est-ce que ça veut dire que notre baptême qu'on a reçu dans l'Église catholique pourrait être reconnu chez les orthodoxes ou pas, et inversement?
Oui, tout à fait. Là, vous touchez quelque chose que merci de me remarquer ça, hein. Vous savez que comment dire ça, les rencontres œcuméniques et donc les dialogues œcuméniques sont arrivés à un acquis fondamental, c'est que nous reconnaissons le baptême des autres confessions et les autres confessions reconnaissent notre baptême. Donc, si en général, je dis bien en général, Si je vais dans un temple protestant pour participer à un culte, je suis un baptisé parmi des baptisés. Si je vais dans une église orthodoxe pour célébrer la divine liturgie, je suis reconnu par mon baptême. Donc, nous reconnaissons le baptême des uns et des autres, et c'est fondamental, ça. Et même, il serait très grave, et même peut-être impossible, non, parce que c'est possible parfois par des milieux traditionalistes, notamment chez les orthodoxes, il serait impossible, je dirais, qu'on demande d'être rebaptisé. Ce serait impropre, parce qu'il y a justement ces accords œcuméniques. Et donc, universel, merci, veut dire ça aussi. Ce baptême est reconnu. Nous partageons au moins la foi au Christ reçue au baptême.
Très bien.
Si,
Pardon, il y a une
oui.
cérémonie, on a l'exemple là dans ma paroisse, d'un monsieur qui est protestant, il va devoir demander son entrée dans la pleine communion à l'Église catholique.
Oui, ça se fait aussi. C'est le rituel d'initiation chrétienne des adultes qui a
Oui.
une partie pour cela, mais cela n'implique pas un rebaptême. C'est ça qui est important. Et donc, il y a peut-être un acte de signation, mais qui n'est pas véritablement une confirmation, vous voyez, mais qui dit par un signe rituel qui rentre dans la communion de l'Église catholique. Mais il n'est pas appelé à être rebaptisé. Laetitia, vous vouliez prolonger?
Oui, non, c'était une autre question. Vous parlez souvent de baptême adulte et de baptême enfant, mais vous parlez pas des ados. Mais je sais que c'est assez similaire adulte et ado
C'est
au
ça.
niveau du rituel, donc c'est peut-être pour ça. Je ne sais
C'est ça.
juste.
C'est ça. Je l'avais dit peut-être rapidement la dernière fois. Dans le plan du cours, je vous présente trois rituels. Mais en France, on a édité un quatrième rituel, effectivement, qui est le rituel du baptême des enfants en âge scolaire, qu'on est en train de revoir en vérité. Et mais, comme vous l'avez remarqué, il n'est qu'un extrait du rituel du baptême des adultes. C'est un chapitre du baptême des adultes et une adaptation aux adolescents, voilà. Ils sont considérés comme des adultes. Donc, en général, ils font des étapes et vivent des temps. Il y avait Bénédicte.
Oui, j'ai deux questions. La première, c'est quelle est la signification profonde de l'onction par le Saint-Crème au baptême? Et du coup, cette espèce de redondance dans la confirmation, parce que l'autre jour, vous avez dit que l'onction par le Saint-Crème, c'est une fois pour toutes.
Oui.
Mais si on l'a reçu au baptême, pourquoi est-ce qu'on fait une différence avec la confirmation?
C'est une très bonne question. Je vous répondrai quand nous parlerons du baptême des petits-enfants, parce que ça concerne le baptême des petits-enfants. C'est pour le baptême des petits-enfants qu'on fait une onction avec le Saint-Crème, sans donner à cette onction une valeur, comment on peut dire ça, de confirmation. Hein? Et votre question est tout à fait juste. Est tout à fait. Mais nous verrons qu'est-ce que fait le rituel. Nous lirons qu'est-ce que dit le rituel. Et nous comprendrons de manière très romaine et jésuite, si je peux dire. Elle arrive à dire oui, c'est l'esprit, mais c'est pas tout à fait l'esprit. Il faut encore attendre la confirmation. Mais vous voyez bien que derrière cette question, il y a toute l'évolution de notre pratique sacramentelle en Occident. C'est depuis qu'on a détaché la confirmation du baptême que cela pose problème. Et donc, on ne sait plus où caser l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est toujours là, hein, attention. Mais en vérité, voilà, c'est ça que ça pose problème. Mais on en reparlera. Vous me le rappelez, Bénédicte, si
Oui.
j'oublie, hein?
Et alors, l'autre question, je devais vous la rappeler depuis le premier
Oui,
cours.
oui.
C'est, je ne sais pas si vous
Ce
voyez
schéma.
ce schéma où le sacrement de l'ordre est finalement mis à la même hauteur, entre guillemets, que la réconciliation
Oui.
et avant l'Eucharistie.
Oui.
Enfin, c'est voilà. De compte tenu
Oui,
de
ils
tout
sont
ce que vous
comme.
nous avez appris jusque-là, ça me paraît difficile à comprendre comme
Oui,
schéma.
mais c'est bien que vous réagissiez à mon cours de manière très, très attentive. Ce schéma, comme je vous disais, vient d'un théologien qui était en plus mon enseignant. Il peut être critiqué, peut être modifié, peut être effectivement. Moi, j'ai toujours envie, et on pourra, et c'est comme ça que je le mets, de considérer l'ordre autant que le mariage. Par là, je m'explique. Ils sont des états dans l'Église, vous voyez. Alors que le schéma veut montrer en vérité que l'ordre permet de structurer l'Église. Aussi la réconciliation. Pourquoi? Parce qu'on retrouve la communion dans l'Église par la réconciliation. C'est cela que veut dire le schéma fait par le théologien en question. Voyez? Mais c'est bien que vous le critiquiez et je suis tout à fait d'accord pour que vous le critiquiez.
Moi, j'ai encore une question. Dans le RICA,
C'est Sophie, c'est Sophie.
au moment
Les
d'entrer,
autres, on va avoir la place pour tout le monde. Hein.
au moment
Sophie.
d'entrer en catéchuménat, il est prévu que les catéchumènes ressortent de l'église, qu'ils ne restent pas
Oui.
la messe qui suit. C'est quand même très difficile à mettre en œuvre, ça, parce qu'en général, ils sont déjà allés plusieurs fois à la messe.
Tout à
Et
fait.
là, on leur demanderait de sortir,
Oui.
enfin, c'est ce qui est prévu.
Tout à fait. Alors, le rituel a vraiment pensé, et vous le voyez dans le schéma que je vous ai projeté, si vous regardez l'ordre rituel du RICA, à chaque fois qu'il y a une étape, il devrait sortir de l'église, parce que si jamais après il y a l'Eucharistie. Pourquoi? Alors, je vais vous dire d'abord pourquoi il est pensé comme ça. Et puis, on verra que peut-être on peut faire comme ça et autrement. Mais généralement, il y a une intelligence rituelle dans cela. Et l'intelligence rituelle veut dire, tant que tu n'as pas reçu les sacrements de l'initiation, tu ne peux pas participer à l'Eucharistie. C'est ça que veut dire. Tu ne peux pas communier. Vous voyez? C'est ça la cohérence de l'idée de renvoyer ou de faire sortir les catéchumènes. Ce qui nous est difficile à nous aujourd'hui de comprendre, c'est que nous considérons toujours la participation à quelque chose comme un acquis, comme un dû, voyez? Alors que la ritualité et l'initiation veulent nous apprendre peu à peu, par le désir, à rentrer dans ce que nous demandons, voyez? Là, l'initiation veut un peu dire ça. C'est peu à peu que tu vas rentrer dans l'Église, c'est peu à peu que tu pourras communier au corps et au sang du Christ. Et donc, par cette ritualité de la sortie, qui n'est jamais seule, et je vous fais remarquer, hein, parce que le rituel demande qu'il soit accompagné par les accompagnateurs, on demande qu'avant de quitter l'assemblée, on prie sur eux, donc on nomme les catéchumènes, on l'accompagne avec la prière, et on les accompagne avec la parole. Généralement, ils vont pas trop loin, je dirais, ils vont peut-être dans une salle à côté pour lire la parole de Dieu avec les accompagnateurs ou les parrains, la marraine. Mais disons, vous voyez, donc ça a un sens. Aujourd'hui, il est vrai, parfois les catéchumènes ont déjà participé à la messe et puis ils disent, mais comment ça se fait qu'aujourd'hui je dois quitter l'église alors que je suis resté dedans? Mais peut-être qu'il faut leur dire, mais une fois tu fais cette expérience-là, le renvoi a cette signification-là. Et donc, tu rentreras pleinement dans l'Église la nuit de ton baptême quand tu recevras l'Eucharistie. C'est d'ordre rituel, c'est pas d'ordre, voyez, humain. Hein? Au contraire, les catéchumènes sont considérés comme faisant partie de l'Église. Je le répète, les catéchumènes, du moment où ils deviennent catéchumènes, sont considérés comme des chrétiens. Ils sont des chrétiens. Ils sont pas des fidèles, mais ils sont des chrétiens. Donc voilà quelle est la raison rituelle, symbolique, c'est l'ordre du symbole. Après, voilà les ajustements pastoraux à faire. Hein? De là à jamais les faire sortir, je trouve qu'il y a un milieu. Hein? De là à les faire sortir tout le temps, on peut trouver toujours aussi un certain milieu. Vous voyez, ça peut être la première étape ou ça peut être l'avant-dernière étape. Vous voyez, l'étape de l'appel décisif, par exemple, qui est un temps fort, hein, juste avant de participer à l'autre. Hein, voyez. Il y avait
Oui.
Frédéric, je vois, qui a
Oui.
une main levée
Ouais,
depuis longtemps.
je
Il doit être
parlais.
fatigué. Hein.
Ouais, c'est pas surtout que j'ai.
Ah, le pauvre! Ah,
J'en
le
ai plus qu'une.
pauvre! Ah là
Donc.
là là! C'est pas trop mal?
Bah, ça va mieux. Ça s'est
Ça va
produit
mieux.
vendredi dernier, chute de vélo.
Ah là là.
Voilà, donc je vais pouvoir baisser ma main. Oui, non, j'avais une question, puisque dans le cours d'Anne Reghini, on avait passé en revue les différentes confessions, dont les évangélistes.
Oui.
Et les évangélistes auraient, ou du moins dans leur pratique, l'habitude de refaire un nouveau baptême, parce qu'ils considèrent que le baptême des enfants n'est pas valable, entre guillemets, parce qu'ils sont considérés comme étant, ils n'ont pas choisi, etc. Donc ils demandent, ils refont un nouveau baptême. Donc c'est un petit peu, enfin, contradictoire avec l'idée que tout le monde accepte le baptême initial, que ce
Tout
soit
à fait.
les...
Oui,
Donc
tout à fait.
comment c'est perçu ça, dans le
Ben, il faudrait
contexte?
vérifier si les évangélistes en tant que les évangéliques en tant
Les
que
évangéliques, oui.
oui, les évangéliques en tant que groupe reconnu, est-ce que dans les dialogues officiels ils avancent ça ou bien cela se fait seulement dans certaines paroisses, vous voyez là aussi dans certaines communautés plutôt évangéliques et pas dans d'autres, parce qu'on trouve des exceptions partout, peut-être pas en catholicisme en général. Mais dans l'orthodoxie, homo athos, on rebaptise, et dans certaines paroisses aussi.
Oui, donc,
Vous me dites, les évangéliques apparemment le font. Mais vous voyez, ce sont des exceptions face à un consensus œcuménique qui est très différent. Voyez. Il y a naturellement, je ne dis pas des tensions. Aujourd'hui, ils sont de plus en plus intégrés, les évangéliques. Il y a des facultés de théologie, il y a une reconnaissance officielle, je dirais même. Mais il se peut qu'il y ait dans des milieux particuliers enthousiastes, intégristes au sens voilà tel que dit le mot, des volontés de faire cela. Mais
Et surtout ce que
généralement,
c'est
les dialogues œcuméniques ne disent pas ça.
que c'est une communauté qui se développe très vite, quoi.
Ah oui, ça c'est évident que les évangéliques ont une augmentation
On
même dans les
voit,
pays.
voilà, en France, c'est sans doute une des confessions qui recrute le plus.
Tout à fait, tout à fait.
Donc voilà.
Donc je parlais d'exception là, hein.
Non, mais on a bien compris. Mais comme tout système humain,
Oui.
on parle d'unité, mais c'est
Tout
toujours
à fait.
80-20, quoi.
Tout à fait. Est-ce qu'il y aurait d'autres qui veulent réagir? Oui, Adeline.
Bonsoir. Vous avez dit que le baptême des enfants en âge scolaire devrait changer, mais est-ce que il y aura une évolution proche et elle serait plutôt dans quel sens?
Ah oui, je ne saurais pas vous dire, mais je sais par des collègues qui travaillent à ça qu'effectivement la conférence épiscopale française est un groupe à l'intérieur de travaille à ça. Hein? Donc, en quel sens ça devrait aller? Moi, je pense qu'on n'avait pas assez. On dit que c'est un intellectuel très typé années 70, si vous voulez. Et donc, il n'a pas connu des évolutions. Et on le fera peut-être évoluer par rapport à la situation actuelle des adolescents ou des enfants d'âge scolaire, j'imagine, hein? Mais peut-être qu'on le rapprochera davantage d'un rituel des adultes. Vous voyez, là, il est entre deux aspects, et donc, mais je ne saurais pas vous dire plus. Je sais
Merci beaucoup.
simplement qu'on y travaille.
D'accord. Merci beaucoup.
On ferme cette partie avant une petite pause, si vous le voulez bien. Et si vous ne le voulez pas, je vous le dis. On fait une pause. On fait une pause. Nous sommes à 14. Est-ce que vous avez le courage de nous trouver à 25? À 25. Merci.
Oui.
Et tout à l'heure.
Voilà, nous allons continuer notre parcours. Je sonne une cloche toute spirituelle. Voilà. Et nous allons donc continuer par le baptême des petits-enfants. Je vais à nouveau partager l'écran. Voilà, comme je vous disais, donc chaque rituel, désormais, nous sommes capables de le comprendre à ses notes doctrinales pastorales ou prenotanda. Et je vous dis quelques mots avant de vous montrer la cohérence et l'intelligence de la célébration en tant que telle du rituel du baptême des enfants, comment on interprète ce baptême. Et donc, tout d'abord, ces numéros-là insistent sur l'importance du baptême des petits-enfants et il spécifie le statut propre des petits-enfants en soulignant que la pratique de ce baptême était dans la tradition de l'Église. Nous avons déjà parlé auparavant et notamment on insiste du coup sur l'importance de la relation entre la foi et la catéchèse. Par là, qu'est-ce qu'il veut dire qu'est-ce que veulent dire les notes doctrinales pastorales? C'est que le baptême inaugure, voilà, l'initiation d'une personne en étant enfant, mais que c'est la catéchèse par la suite qui doit, quelque part, qui prend la relève pour pouvoir les faire grandir dans la foi. Toutes les questions inhérentes à l'importance du rituel, du baptême des petits-enfants. Et là, on peut pour obvier, pour contrer, pour répondre peut-être aux critiques que ce rituel pouvait, ou cette pratique du baptême des petits-enfants pouvait avoir, recevoir à ce moment-là, dans les années 50, 60, on s'interroge sur l'importance ou non du baptême. Et là, on souligne l'importance venant de la tradition de l'Église. Et puis, concernant les ministères, c'est là que nous retrouvons peut-être les nouveautés les plus importantes. C'est que, je vous disais, on a pensé à un rituel pour les petits-enfants, et du coup, on quitte la vision que l'on avait auparavant de ce baptême, qui était surtout centré sur la participation des parrains et des marraines. C'était les parrains et la marraine qui amenaient le petit-enfant au baptême. Là, le rituel insiste sur l'importance du rôle des parents. Ce sont les parents qui, effectivement, deviennent les acteurs principaux de la célébration, dans la mesure où les parents demandent publiquement le baptême de leur enfant, ils signent de la croix leur enfant après le célébrant. C'est à eux que le célébrant s'adresse pour la renonciation à Satan et l'adhésion et la profession de foi. C'est eux qui tiennent l'enfant sur les fonts baptismaux. C'est à eux qu'est remis le cierge allumé et ils reçoivent à la fin de la célébration une bénédiction. C'est eux qui reçoivent à la fin de la célébration une bénédiction spéciale. Oui, la place des parents donne toute une autre perception du baptême. Là où effectivement, les parents sont concernés par la foi de leur enfant et cela est manifesté dans la célébration. Concernant le temps et le lieu du baptême, le rituel insiste sur le fait, je l'ai déjà remarqué, que le temps dans lequel il faut célébrer le baptême d'un petit enfant, c'est le dimanche. Donc c'est le dimanche, je ne reviens pas sur l'importance pascale de ce jour. Et donc, il a une dimension de résurrection. Il souligne l'importance de la résurrection du Christ. Et donc, c'est le lieu, le jour où l'assemblée chrétienne est rassemblée. Donc, l'assemblée chrétienne devrait être présente au moment où le baptême advient. Et le lieu du baptême doit être l'église. Le rituel insiste sur le fait que ça ne peut pas être en aucun cas la maison familiale. Donc, on se déplace pour le baptême. Donc, du coup, c'est l'entrée dans l'Église au vrai sens du terme. Et puis, donc, on donne des indications sur la structure de la célébration que je vais regarder avec vous dans l'autre tableau que je vous ai préparé. Donc voilà, il est là. Et là, nous rentrerons dans la question de Bénédicte, de qu'est-ce qu'on fait avec le Saint-Crème pour un petit enfant? Qu'est-ce qu'on dit? Comment on l'emploie? Tout d'abord, je vous fais remarquer la structure de la célébration est une structure qui suit une structure classique. Hein. Donc, on a l'accueil, la liturgie de la parole, la liturgie du sacrement, et puis on conclut la célébration. Je vous ferai remarquer l'importance du lien étroit entre liturgie de la parole, liturgie du sacrement. Hein. Donc, jamais, désormais, depuis le Concile Vatican II, on peut célébrer un sacrement et même une bénédiction sans qu'il y ait proclamation de la parole. Donc le sacrement ou le geste sacramentel est intimement lié de la parole. Il est même au cœur, la parole est au cœur de ce signe sacramentel ou du sacrement lui-même. D'où cet ordre. Ça peut arriver, et moi je trouve que quand on peut, ce serait très important, que le baptême des petits-enfants advienne au cœur même de l'Eucharistie d'une communauté chrétienne. En ce cas-là, naturellement, il trouvera place après la liturgie de la parole. Vous voyez, tous ces rites vont être établis autour de la liturgie de la parole. Et puis après la liturgie de la parole, on aurait le baptême avant de passer à la célébration eucharistique. Mais là, prenons la structure telle qu'elle est. Et nous retrouvons l'idée de salutation, de dialogue initial, comme on l'a vu déjà pour les adultes, qu'on fait toujours à la porte de l'église. Vous voyez, on n'entre pas tout de suite à l'église. À la porte de l'église, on signe du front le bébé, et puis on entre dans l'église. Donc, vous voyez, il y a vraiment, même physiquement, l'idée qu'on rentre dans l'église, bâtiment symbolique de l'église, corps du Christ. Hein, et donc, du coup, on a cette, je l'ai bien aimé, à la porte de l'église. Je reviendrai sur ces déplacements dans les lieux que le rituel permet de faire, mais que souvent on ne fait pas, ce qui je trouve un peu dommage. Et puis donc la liturgie de la parole, avec une parole que tout simplement que l'on dit pour commencer la liturgie de la parole, les lectures bibliques, une homélie, la prière commune de l'assemblée avec la litanie des saints et la prière litanique, la litanie. Et puis la prière d'exorcisme de délivrance, l'onction d'huile, l'imposition de la main, effeta, ouvre-toi, ce sont des gestes très anciens, antiques plutôt, excusez-moi, avec le fait d'ouvrir les narines, la bouche, les oreilles, ce sont les gestes que Jésus a faits auprès des malades pour dire que tout s'ouvre à la grâce, si je peux dire. Et puis le rituel dit, donc cela se fait dans l'église, autour de l'ambon, devant l'ambon. C'est le lieu où on proclame la parole. Et puis de là, le rituel dit qu'il faudrait aller vers le baptistère. D'où l'importance, du point de vue de la mise en œuvre liturgique, qu'on place le baptistère un peu éloigné de l'autel ou de l'abside, disons, qu'il y a de l'espace pour se déplacer. Puis donc, on a la liturgie du sacrement, la bénédiction, l'évocation de l'eau, la renonciation à Satan, la profession de foi. Je le répète, ce sont les parents qui font ça, qui répondent à cela. Puis on a le baptême, la plongée dans l'eau, l'aspersion d'eau plutôt. L'onction avec le Saint-Crème, incriminé, et puis donc la remise du vêtement blanc et la remise du cierge allumé. À nouveau, ce sont les parents qui cherchent la lumière. Et puis de là, on va vers l'autel. Et à l'autel, près de l'autel, on dit la prière du Seigneur, le Notre Père, et on a une bénédiction finale avec la bénédiction aux parents, comme on l'a dit, et la Magnificat. D'abord, je réponds à la question de Bénédicte, qui est très importante hein, du point de vue théologique. Nous avons, pour des raisons, je le répète, historiques, partagé les sacrements de l'initiation en trois. Et la confirmation s'est éloignée de son lieu originaire qui était le baptême. Et du coup, effectivement, quand on donnait l'onction, quand on chrismait le baptisé sortant de la piscine baptismale, il n'y avait aucun problème. C'était le même geste, la même signification donnée par deux gestes. Tu reçois l'esprit en étant plongé dans la mort et la résurrection du Christ et tu es loin de l'esprit. Voyez? Là, du coup, puisque la confirmation, c'est l'évêque qui la donne et les posticipés par rapport à le baptême, quelle est la parole qui accompagne cette onction de crème, du Saint-Crème? C'est la même huile qu'on va employer pour la confirmation, je vous fais remarquer, et pour l'ordination des prêtres et des évêques. Eh bien, je vous lis la prière qui accompagne cette onction du Saint-Crème, qui dit ceci, Isaïa, tu es maintenant baptisé, le Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus, le Christ notre Seigneur, t'a libéré du péché et t'a fait renaître de l'eau de l'Esprit Saint. Désormais, tu fais partie de son peuple, tu es membre du corps du Christ. Tu participes à sa dignité de prêtre, de prophète, de roi. Dieu te marque de l'huile du salut afin que tu demeures dans le Christ pour la vie éternelle. Donc, vous voyez, il n'y a pas de... Il y a mention de l'Esprit Saint, parlons de l'Esprit, mais la parole qui accompagne l'onction ne dit pas, comme le dit le rituel de la confirmation, je vous lis. La formule qui accompagne, la parole qui accompagne le geste d'onction pour un confirmé, Jean soit marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Donc là, on dit clairement qu'il y a cette réception de l'Esprit. Alors la difficulté est une difficulté théologique, et il faut le remarquer. Là, il n'y a pas qu'une tension pastorale, il y a une tension théologique. Et comment on peut répondre? Les théologiens habituellement disent, mais effectivement, la relation entre le baptême et la confirmation, c'est comme la relation entre Pâques et Pentecôte. Et donc, le temps qui sépare le baptême de la Pentecôte, le temps bien sûr de l'Esprit, la résurrection est une résurrection qui est suscitée par l'Esprit, hein. Mais on prend conscience peu à peu et on est confirmé dans cet esprit. Donc du coup, l'onction du Saint-Crème, comme le dit la prière là pour un petit enfant, est vraiment celle de dire demeurer dans le Christ. Donc le baptême t'a apporté la vie divine par le Christ et l'Esprit te donne de la vivre en attendant de le recevoir en plénitude. Quelque part, je paraphrase là. Mais c'est pour comprendre le sens entre ces deux onctions. J'admets et je suis tout à fait d'accord qu'on essaye d'ajuster quelque chose qui n'est pas très, très, très clair dans nos pratiques. Hein. Donc je pense qu'il faut tenir l'idée que l'Esprit est donné au baptême et qu'on en reçoit une confirmation le jour de la confirmation. Voilà, c'est tout simplement ça. Au moins, je balbutie en le disant, mais c'est un peu ça. Voilà. En sachant que la figure de l'évêque, qui est le ministre principal de la confirmation, dit aussi le fait qu'on est incorporé dans l'Église, qu'on est établi dans l'Église, alors que là, il est moins visible, il n'y a pas présence d'évêque, il n'y a pas. Voilà, on dit moins cela. Oui. Tout cela me permet de vous montrer aussi une autre chose qui est peut-être peu perceptible. Je vous ai déjà montré qu'on part de la porte de l'église et on arrive à l'autel en passant par le baptistère. Donc c'est même si l'espace nous dirait quel est l'horizon, c'est l'horizon eucharistique. Donc tu vas, l'horizon final, c'est l'Eucharistie. Et puis surtout avec cette progression de plonger dans l'eau. Onction du Saint-Crème qui annonce la confirmation et la prière du Seigneur, notre Père, récitée autour, auprès de l'autel qui dit l'Eucharistie, on a là la volonté, par ce rituel, de dire qu'en filigrane, le baptême des enfants inaugure à l'initiation chrétienne un bébé. Donc le bébé est appelé à vivre cette initiation, d'abord par la confirmation. Et puis par l'Eucharistie. C'est comme ça c'est de cette manière que l'on veut montrer cette progression et cette unité des sacrements. Je vous lis aussi ce que dit le rituel pour revenir à l'onction du Saint-Crème, qui peut être intéressant. Il y a une sorte d'explication, d'indication qui n'est pas rituelle, mais qui est pour le célébrant ou celui qui prépare le baptême d'un petit enfant. Il dit ceci, là où on parle de l'onction du Saint-Crème, par le baptême, le chrétien renaît de l'eau et de l'esprit, selon la parole de Jésus. L'onction du Saint-Crème, oui, l'huile parfumée bénite par l'évêque, signifie le don de l'Esprit Saint et annonce la confirmation. Vous voyez, cette onction-là est de l'ordre d'une annonce de la confirmation. Et j'en viens à la confirmation en tant que telle. Là, à nouveau, je reviens au plan pour que vous ayez. Voilà. La nouveauté, si je peux dire, l'effort dans la rédaction des orientations ou des notes doctrinales et pastorales est celui d'abord, vous le voyez, il y a toute une partie, les numéros 1 à 7, qui souligne le rapport de la confirmation avec les sacrements de l'initiation. Vous voyez, puisqu'on l'avait exilé de l'ensemble de l'initiation, on essaye théologiquement de le faire revenir dans l'orbite des sacrements de l'initiation. Et donc, on souligne le fait que la confirmation n'est qu'un sacrement de l'initiation, qui n'est pas un sacrement à part des autres sacrements du baptême et de l'Eucharistie. On souligne que le sujet du sacrement est bien un adolescent. On souligne la dimension ecclésiale du sacrement. C'est donc par ce sacrement, le confirmé est pleinement incorporé dans l'Église. On dira que le ministre du sacrement est l'évêque. Et puis donc, on va insister sur le rite essentiel du sacrement. Vous vous rappelez quand nous avons fait décrit le développement historique des gestes de l'initiation chrétienne, je vous avais fait remarquer qu'il n'y avait pas de gestes d'onction dans la période du Nouveau Testament et on la trouve simplement au IIIe siècle de l'ère chrétienne. C'est parce que ce qui comptait là, c'était l'imposition des mains. On y reviendra sur le geste de l'imposition des mains. Et donc, on souligne que le rite essentiel de la confirmation est l'imposition des mains accompagnée de l'onction. On avait un peu oublié cette idée de l'imposition de la main. Et là, on le souligne à nouveau, c'est qu'en imposant la main, on noie le front ou la tête du confirmé, et on accompagne ce geste, justement, je le répète, avec cette parole, Jacques, sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Je vous fais remarquer, chose qu'on ne sait pas vraiment, que cette formule-là, cette parole-là, nous vient directement de la pratique de l'Église, des Églises orthodoxes, donc de tradition byzantine. Quand on a composé le rituel, on est allé chercher du côté des traditions de l'Orient chrétien, de la tradition byzantine, et donc nous partageons avec les orthodoxes la parole qui accompagne le rite d'onction du Saint-Crème. Et puis donc, nous avons la célébration, et là à nouveau, je vous le montre. Je vous ai mis côte à côte le rituel de la célébration de la confirmation et celui de l'initiation des adultes pour vous montrer que la liturgie du sacrement retrouve la confirmation dans le rituel de l'initiation des adultes à peu près la même structure. Hein. Mais je reste pour le moment du côté de la célébration de la confirmation et vous voyez bien que la structure de la célébration est une structure d'une célébration de l'Eucharistie. On a les rites d'entrée, la liturgie de la parole, la liturgie du sacrement, la liturgie eucharistique et le rite de conclusion. Là, à nouveau, le jeu, si je peux dire, est de vous montrer qu'on veut à nouveau tenir ensemble l'unité des sacrements et l'ordre des sacrements, malgré que la confirmation puisse être célébrée parfois après avoir reçu la première communion. Et comment le rituel le fait? Comment il nous le montre? Je reste tout de suite à la liturgie du sacrement et vous voyez bien qu'on commence la liturgie du sacrement par la profession de foi. On demande aux confirmants de professer leur foi. Et c'est quand qu'on a professé pour la première fois la foi ou qu'on l'a professé pour nous, c'est au moment du baptême. Et donc là, le fait de mettre là une profession de foi, de dire la foi reçue au baptême, dit bien que on vient du baptême avant la confirmation. On a reçu d'abord le baptême avant la confirmation, puis on a l'imposition des mains, l'onction chrismale et la salutation de paix. Pour ceux qui ont mon âge, la salutation de paix, on embrasse le confirmant, mais chez nous, à mon âge, on donnait une petite gifle qui avait une signification de la force de l'Esprit Saint. Je ne sais pas comment ils ont trouvé ça, mais bon, c'était ça. Mais c'est devenu une accolade, une salutation fraternelle, voilà. Et puis donc, on participe à l'Eucharistie. Et le rituel, c'est ça qui me permet de continuer, dit bien que les confirmants, le confirmant, ce jour-là, participe à la communion, communie. Et le rituel dit que là, on devrait faire prendre conscience au confirmant que cette communion-là achève son initiation, même s'il a reçu la première communion avant. Il faudrait que la catéchèse la dise de manière très forte, ou initie celui qui va être confirmé, faire prendre conscience que ce jour-là est un jour tout à fait particulier, qu'en recevant cette confirmation et en communiant au corps du Christ, cette communion-là achève l'initiation qu'on n'avait pas terminée tant qu'on n'avait pas reçu, du coup, la confirmation si on avait déjà été eucharistié, ou bien, voilà, elle termine de toute manière. Donc là, à nouveau, il y a un horizon eucharistique, pour paraphraser Benoît XVI. Puisque nous avons fait ces deux sacrements, et que peut-être des questions sont nées, je recoupe ma voix et je vous laisse la parole. Si jamais il y a des choses que vous voudriez approfondir ou avoir, dont vous voudriez avoir un éclaircissement.
Oui, j'ai une question sur
C'est
le
Hugo.
temps. Oui, c'est Hugo.
J'apprends peu à peu vos prénoms, vous
Je
voyez.
vois ça, je vois ça.
Voilà.
Oui, sur le point 2, 1, 3, sur le temps et le lieu du baptême.
Oui.
Je vois par exemple dans ma paroisse,
Oui.
le baptême, ils sont célébrés surtout le dimanche.
Oui.
Il y a l'accueil de donc vous disiez donc
Par
par
la
la
porte de
communauté
l'église, oui.
exactement la porte de l'église c'est-à-dire qu'ils rentrent simplement en fin de messe
Voilà.
et après l'action de grâce et puis ensuite donc ils vont célébrer donc
Le
après la
baptême.
messe. Par contre au Portugal dont c'est mon pays natal
Oui.
j'ai les baptêmes sont souvent célébrés le samedi.
Ah.
Et puis, au Cap-Vert, pays d'origine, les baptêmes ils sont célébrés au milieu de semaine.
Ah oui, ah oui, ah oui.
D'accord? C'est complètement différent. Il n'y a pas l'assemblée, il n'y a pas la communauté. Donc, est-ce que d'un pays à un autre, ça peut changer?
Moi, je pense que là, il y a, naturellement, je reviens là, c'est très intéressant comme exemple que vous nous donnez, Hugo, parce que c'est un bel exemple de tension pastorale et théologique. La théologie telle que nous
D'accord.
l'avons vue dit bien, il est important de le célébrer dimanche. Nous avons compris pourquoi, inutile de le répéter. Après, je pense qu'il y a la résistance ou la force des traditions, des cultures. Vous voyez? Alors, j'imagine qu'au Portugal, peut-être même en Italie, encore que je ne saurais pas vous dire parce que ça fait longtemps que je ne suis pas, Ça peut arriver qu'il y ait un côté plutôt familial, vous voyez, le baptême est quelque chose de très culturel, ça fait partie
Oui.
d'une entrée
C'est
dans la
très culturel.
société, vous voyez. Donc, qu'on célèbre ça le samedi, parce qu'on donne plus de temps, le dimanche, on poursuit la fête à la limite. Hein.
Oui.
Et donc, voilà, il y a plutôt la raison culturelle qui prime sur la raison théologique. Voilà. Encore que, du point de vue catéchétique ou dans la prédication, je pourrais souligner que nous sommes à la veille du dimanche. Vous voyez, je pourrais toujours faire le lien avec le dimanche. C'est plus gênant quand on baptise à n'importe quel moment de la semaine. Là, ça devient plus compliqué. Ouais.
Voilà, c'est
Mais je
surtout
pense que ce
le
sont des
matin.
résistances de
D'accord.
coutumes, de cultures, vous voyez.
Mais est-ce que ça peut nous dévier alors?
Ça, disons, ça donne moins de, ça, c'est moins évident de comprendre que le baptême prend source de la résurrection du Christ.
Donc il y a ce petit côté, le petit côté, ce côté communautaire qui disparaît.
Aussi, naturellement, aussi, c'est important de savoir que la foi me vient de l'Église. Donc, si je fais un baptême dans un cercle familial, c'est moins visible. Est-ce que vous saisissez ça?
Oui.
Alors que si je vois la communauté des chrétiens rassemblés qui passe quelque part le témoin à la famille qui amène son enfant, c'est beaucoup plus parlant. Voilà, c'est une question de signe qui parle ou qui parle le moins.
Oui, il y a le sentiment d'accueil, je pense. Il y a ce
Tout à
sentiment
fait.
d'accueil, d'intégration,
Tout à fait.
et qui est nécessaire aussi pour que
Tout à
la
fait.
famille, elle comprenne que, comme vous aviez dit tout à l'heure, que on ne vient pas, c'est pas pour la foi personnelle, mais il y a aussi l'aspect communautaire qui est très
Ecclésiale,
important,
tout à fait.
qui est très important.
Merci.
Merci.
Il y avait d'autres qui voudraient prendre la parole?
Oui,
Laetitia.
Laetitia, oui. Je ne comprends pas alors du coup en France pourquoi on insiste tant dans la catéchèse sur la profession de foi, puisque lors de la confirmation, ils professent leur foi. C'est particulier à la France.
Voilà, la profession. Alors là, il y a naturellement la profession de foi telle que nous l'avons trouvée dans le rituel de la confirmation veut dire le credo, hein, quelque part. Alors que la profession de foi telle que vous la dites, si je comprends bien, c'est le moment dans lequel on fait une célébration pour dire qu'on a reçu la première communion, que voilà, qu'on est adulte, qu'on rentre dans la chrétienté, quelque chose comme ça, non?
Oui, c'est aussi pour professer sa foi avec le credo en
Voilà.
sixième, et on le fait en sixième, enfin
C'est
dans la
ça.
catéchèse, c'est
C'est
d'ailleurs.
ça. Oui, c'est pour se réapproprier, entre guillemets, du baptême, si je peux dire, voilà, de manière, oui. Oui, effectivement, peut-être que ça fait double emploi, ou peut-être que ça mériterait, au contraire, davantage de le manifester au moment de la confirmation, cela. Ça risque, souvent, c'est quelque chose à nouveau de culturel, c'est propre à la France. Ça risque parfois de doubler un sacrement ou d'en faire quatre sacrements plutôt que trois, vous voyez. Peut-être qu'il faudrait davantage investir dans la préparation des sacrements tels qu'ils sont.
Oui, je suis d'accord, parce qu'il y a souvent un amalgame. Je vois que des personnes disent, j'insiste, je voudrais faire la profession de foi, mais ce n'est pas un sacrement. Ah bon, ah
Exactement.
bon, ah bon,
Exactement.
les gens
Puis
découvrent.
généralement, c'est paradoxal, puis généralement, au moins dans le passé, peut-être même maintenant, mais la profession de foi avait un caractère très public et familial, festif, et puis la confirmation reçoit une place très pauvre et petite. Alors, du coup, alors que l'inverse devrait être vrai. Mais à nouveau, c'est un reste d'une culture, hein, de pratiques culturelles d'un lieu.
D'accord, merci. Juste
Oui,
Béatrice.
Béatrice.
Pour poursuivre ce que Laetitia venait d'exprimer, moi j'ai quand même l'impression, en tout cas dans le diocèse qui est le mien, que les choses évoluent et on renforce vraiment la préparation de la confirmation et que finalement la profession de foi n'est plus proposée au collège et qu'éventuellement il y a une célébration au lycée un peu plus tard pour enfin, réexprimer l'engagement pour ce jeune adulte à prendre, trouver sa place dans l'Église. Mais j'ai quand même l'impression que l'inversion s'est opérée, d'autant plus que socialement, finalement, aujourd'hui, les jeunes qui demandent la confirmation sont vraiment des jeunes qui décident de préparer cette confirmation et donc qui s'engagent sur un parcours. C'est beaucoup moins social que ça a pu l'être. Enfin, en tout cas, c'est ma perception. Enfin, c'est ce que je vis autour de.
C'est intéressant ce que vous dites, Béatrice.
D'autant, enfin, et je le ressens beaucoup. Alors, on est responsable avec mon mari de la préparation des baptêmes des petits-enfants et sur notre paroisse, donc. Et je trouve que, enfin, je suis très surprise des demandes des parents qui peuvent parfois être un peu loin de l'Église, mais la démarche vient vraiment d'eux et ils ont ce désir de demander à l'Église d'accueillir leur enfant et c'est absolument pas téléguidé par des grands-parents, par exemple. Et ça, je trouve que c'est enfin, c'est pour moi, c'est une vraie richesse. Donc, il faut aussi qu'on puisse répondre à ses parents qui souvent manquent de formation, ils sont assez éloignés. On a à la fois le défi de préparer le baptême, mais aussi de ne pas laisser de côté ces jeunes parents qui frappent à la porte.
Bien sûr. Est-ce qu'il y aurait d'autres qui voudraient intervenir? Alors, est-ce que vous me permettez une minute de faire une bande-annonce pour la prochaine fois? Pour vous dire comment on va continuer. Vous avez dû recevoir déjà ce document, mais c'est pour vous dire comment on va faire ça. Je vais d'abord partager plutôt l'écran à nouveau, très rapidement, hein, sans vouloir prendre sur votre sommeil. Voilà. Donc, puisque l'Eucharistie est le sommet de l'initiation et l'achèvement de l'initiation, nous allons donc regarder l'Eucharistie de plus près, n'est-ce pas? Sacrement réitérable. Et donc, nous allons le faire comme nous l'avons fait à partir de son évolution et regarder d'abord l'ancrage juif de l'Eucharistie chrétienne. La liturgie chrétienne, l'Eucharistie chrétienne est ancré profondément dans le rite juif. Jésus a célébré la scène selon des rites juifs. Et ils ont pu après se développer, se démarquer avec des textes que nous avons déjà rencontrés pour les sacrements de l'initiation. Et ils vont trouver une structuration avec les constitutions apostoliques, un texte à nouveau, un document important en Orient et puis en Occident avec l'Ordo Romanus Primus et le Collège Barberini pour l'Orient. Et puis nous en arriverons à le déroulement de la messe, la célébration de la messe au Concile Vatican II. Et nous regarderons, donc ça c'est pour voir l'évolution, comment cela a évolué. Et puis nous regarderons quelle est la théologie de l'Eucharistie. À partir de deux textes. Un texte, ce sera la prière eucharistique. Vous voyez, la prière que l'on prononce, qu'on déclame au moment, après la présentation des offrandes, après avoir présenté les offrandes, après l'invitation du célébrant à élever nos cœurs et de rendre grâce. Il y a cette grande prière et nous allons travailler ensemble, commenter ça pour comprendre quelle est la théologie de l'Eucharistie. Et puis aussi un texte du groupe des Dombes, qui est un groupe œcuménique d'un dialogue protestant et catholique qui, dans les années 72, avait produit un texte très important d'un accord œcuménique sur l'Eucharistie. Et je trouve que c'est un des textes les plus beaux pour comprendre la théologie de l'Eucharistie. Et donc, on regardera ces deux textes dans la foulée de cette évolution que nous regarderons la prochaine fois. Voilà donc tout ce que je voulais vous dire avant de vous saluer fraternellement et vous souhaiter un bon sommeil. Voilà.
Merci.
Et je vous dis donc à
Bonne
mardi
soirée.
prochain.
Merci. Bonne soirée à tous.
Voilà.
Merci.
Bonsoir.
Merci. Bonne
Merci. À
soirée.
mardi.
Bonne nuit à tous.
À
Au revoir.
bientôt.
Au revoir.
Au revoir.